Bonjour Caroline, bonjour à tous. En Nouvelle-Zélande, l'auteur présumé du massacre de Christchurch a été inculpé ce matin pour meurtre. Cet homme de 28 ans, militant raciste d'extrême droite, a tué 49 personnes dans deux mosquées en tirant à bout portant sur les fidèles à l'heure de la prière hier. Sur place, la population est traumatisée. C'est un reportage de Karine Houghton.
Assis sur son skateboard, en face des milliers de bouquets qui ont été apportés depuis ce matin à quelques mètres de l'hôpital, Joshua a 25 ans et le regard embué. Il n'en revient toujours pas de ce qui est arrivé à sa petite ville tranquille de Christchurch.
Je suis venu m'asseoir ici pour ressentir la tristesse de tout le monde. Je veux juste montrer mon respect à ces innocents qui sont morts sans avoir rien fait de mal. Je pensais qu'on était en sécurité, mais... nous ne sommes plus en sécurité de nulle part, n'est-ce pas ?
Linda, elle, est venue avec ses deux petites filles, Sophia et Kinka, chacune un bouquet dans la main. Elles sont sorties dès que la police a jugé la situation hors de danger.
Je tenais à emmener les filles pour leur montrer que c'est comme ça qu'on répond aux actes terroristes, avec de l'amour et de la compassion. Oui, toute la nation est en deuil, et le monde va être en deuil pour plusieurs semaines à venir.
Face aux grilles du jardin botanique, les enfants dessinent à la craie des messages positifs et d'unité. Pas question que ces massacres ébranlent les valeurs néo-zélandaises.
Karine Houghton pour France Culture. L'imam qui dirigeait la prière dans l'une des deux mosquées visées a affirmé ce matin que les extrémistes ne parviendraient jamais à entamer leur confiance et leur amour pour la Nouvelle-Zélande. En Espagne, alors qu'au tribunal suprême de Madrid, 12 indépendantistes catalans sont jugés, pour la plupart inculpés de rébellion, les indépendantistes appellent à une grande manifestation dans la capitale espagnole. C'est la première fois qu'une mobilisation de cette ampleur doit se tenir à Madrid. À Barcelone, Mélanie Nunes a suivi les derniers préparatifs avant le départ des bus.
Dans le local de l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, l'une des plus importantes de la région, les équipes sont à pied d'œuvre. 450 autobus, 10 trains déjà complets pour acheminer les milliers de Catalans jusqu'à Madrid. Sur les t-shirts des organisateurs, un seul mot d'ordre, des taillabelles.
L'autodétermination, ce n'est pas un délit. On considère que maintenant la démocratie est un risque en Espagne. Ça, c'est la première fois qu'il y a ce type de manifestation aussi grande à Madrid.
La sécurité, c'est aussi un élément important.
Bien sûr, bien sûr. Il y a le risque que quelques groupes organisés d'extrême droite espagnole peuvent faire des provocations, des agressions contre des gens qui vont là-bas se manifester.
Une marche de près d'un kilomètre dans le centre de la capitale qui se terminera par un meeting politique. Sergi, un autre militant, prépare lui des dizaines de tas de pancartes.
Des phrases de miles. Democracy, stop fascism.
Non una manifestación independentista, sino una manifestación en favor de los derechos. Madrid es la capital del reino, es donde se toman las decisiones políticas, donde se está juzgando a los presos políticos catalanes. Y creemos que es una buena oportunidad. Vean, pues todo es violento, todo es terrorismo, etcétera, etcétera, pues no son verdad.
Montrer une image pacifiste du mouvement, les indépendantistes attendent aujourd'hui d'autres soutiens au-delà des partisans de l'autonomie. La gauche républicaine devrait se joindre au cortège pour faire, dit-elle, barrage à l'alliance du centre, de la droite et de l'extrême droite espagnole.
Petit problème de traduction dans ce reportage, les indépendantistes qui ne veulent pas être associés notamment aux terroristes. On a entendu donc ces indépendantistes au micro de Mélanie Nunes pour France Culture. En France, plusieurs milliers d'étudiants sont attendus aujourd'hui à Paris pour une journée d'information ludique et festive autour de l'Union européenne, un peu avant le scrutin de mai prochain. Il s'agit d'étudiants engagés dans près de 4000 associations que regroupe le réseau AnimaFac, qui est présent dans 23 villes étudiantes pour lutter contre l'euroscepticisme. Cécile Kervas-Doué.
L'Europe, ce n'est pas pour moi. Ça n'a aucune influence sur ma vie et je n'ai aucune influence sur son fonctionnement. C'était les retours les plus favorables à l'Union européenne de l'écrasante majorité des jeunes associatifs. Pas étonnant dans un pays qui, selon l'eurobaromètre de la Commission européenne, daté de fin 2017, est le moins bien éduqué et le moins bien informé sur l'Union européenne. Et c'est précisément ce que compte faire AnimaFac avec cette journée. L'idée n'est pas de convaincre, mais d'informer les étudiants du poids de l'UE dans leur quotidien. Pour cela, des chercheurs et des journalistes viendront donner des conférences au sein d'un village associatif ou des ateliers pratiques et ludiques, comme des jeux dont on est le héros ou un lui et deux européens aborderont cinq grands thèmes. Environnement, lutte contre les discriminations, solidarité internationale, culture et médias et citoyenneté. Il sera donc question, par exemple, du passage à l'âge adulte, de l'évolution des modèles éducatifs, des politiques européennes face aux enjeux climatiques, de l'égalité entre les sexes ou de l'accueil des migrants. Gabriel Attal, secrétaire d'État autour de la jeunesse et des sports, devrait y passer comme la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Objectif, redonner à la jeunesse le goût de la chose politique, mais sans forcément passer par les partis politiques. Car Anima Fac le répète, les jeunes ne sont pas moins engagés qu'avant, mais leur engagement est moins traditionnel, plus provisoire, plus concret et surtout plus local.
Anne-Laure Barral. Un reportage maintenant sur la marche du siècle, ou plutôt les difficultés aujourd'hui de pratiquer la transition énergétique dans une France qui peine à fermer ses centrales à charbon. C'est pourtant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, les mines de charbon ont fermé au début des années 2000. Aujourd'hui, il reste une centrale à charbon qui est menacée de fermeture. C'est un reportage sur place d'Anne-Laure Barral.
Je fais quoi à 54 ans, madame ?
Avec une tente, un brasero et une voiture retournée, cela fait 5 mois que Michel, salarié à la centrale de Gardanne, vient au piquet de grève devant son usine.
On est pour le charbon parce qu'on est des fils de mineurs, c'est notre culture. Mais demain, si on brûle des noyaux d'olive, ça ne nous changera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler dans l'énergie.
90 salariés travaillent sur l'unité charbon du site. Et pour le maire de la ville, Roger May, leur situation est particulièrement injuste par rapport à celle des salariés d'autres centrales à charbon françaises.
Il y a deux centrales à charbon en France qui vont être préservées. Celle de Cordemay, près de Nantes, le ministre est élu. Et une autre, un certain Édouard Philippe, qui va préserver au Havre. Mais là, c'est pas acceptable.
Même les élus locaux écologistes, comme Brigitte Apotélose, estiment qu'il ne faut pas fermer en 2022 et proposent un projet de reconversion.
On est à la fois sur la justice environnementale et la justice sociale. Et donc ça, bah, du coup, on peut regrouper, on peut rassembler, on peut être compris.
Pas de marche pour le climat aujourd'hui à Gardanne, mais d'autres événements sont prévus à Martigues, Aix et Marseille pour que la fin du monde et la fin du mois relèvent du même combat.
Un temps sec sur la quasi-totalité du territoire aujourd'hui, du soleil sur la moitié sud, des nuages sur la moitié nord. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes. Les températures ce matin sont comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Chloé Leblon. Prochain rendez-vous d'actualité sur France Culture, ce sera le journal de midi et demi présenté par Mathieu Laurent.